Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu spécial, car ma conversation avec Jonathan était tellement passionnante qu'on a décidé d'enregistrer une deuxième partie. Cette conversation est donc la première que nous avons eue ensemble, et je vous conseille vraiment d'écouter mardi prochain le nouvel épisode qui sera la suite de cette conversation extrêmement enrichissante. Pour ne pas manquer cet épisode, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. On n'y pense pas toujours, mais c'est pratique, gratuit, et ça permet vraiment de soutenir le podcast. Pour vous en dire un peu plus sur mon invité, Jonathan était, il y a 10 ans encore, avocat d'affaires à Wall Street. Il vivait à New York, il venait de terminer ses études à Columbia, prestigieuse université américaine, et il avait un très très bon salaire. Pourtant, Jonathan n'était pas heureux. Il était même très malheureux. Il s'est tourné vers la drogue pour essayer de s'évader et supporter son quotidien extrêmement stressant, jusqu'à un jour apprendre que son père était atteint d'une maladie dégénérative et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Là, Jonathan a dit stop et il a tout plaqué pour s'installer en Californie. Il découvre alors les écrits d'Eckhart Tolle et avec lui, l'éveil spirituel. C'est une vraie révélation pour Jonathan qui va dès lors se consacrer à l'étude du bonheur en étudiant à la fois les sagesses ancestrales, les théories et études modernes, et faire de sa propre vie et de son propre corps un laboratoire d'expérience. Jonathan découvre aussi les pouvoirs de la méditation et commence à les partager sur une page Facebook, les antisèches du bonheur. Je pourrais vous en dire encore plus, mais je vais laisser Jonathan vous le partager et vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan.
Salut Louise.
Bienvenue sur In Power, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Oui, je dirais que je suis un étudiant du bonheur. J'étudie ce qu'on peut appeler la science du bonheur, qui est l'intersection entre des sagesses ancestrales, telles que les philosophies antiques, le bouddhisme, et la science contemporaine, telle que la neurologie, la psychologie cognitive, la psychologie positive, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui rend heureux. Et je suis un peu mon propre laboratoire. J'essaye d'appliquer dans ma vie toutes sortes de principes, toutes sortes de techniques. Et je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, je partage ça. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook qui s'appelle « Les antisèches du bonheur ». Depuis, j'ai publié 2 bouquins et j'ai une application de méditation guidée que tu connais bien, je crois.
Les personnes qui nous écoutent et qui me suivent sur Instagram connaîtront, vu que j'en parle assez souvent. Ok, bah écoute, alors je sais pas si t'avais fini ta présentation ou si...
Écoute, j'ai jamais fini, mais on peut... Vas-y, je t'en prie.
Non, mais en fait, ça, tout de suite, ça me questionne parce que je me dis... On ne devient jamais étudiant du bonheur si on n'en ressent pas le besoin à un moment. Et c'est même le développement personnel de manière générale. C'est vrai qu'on ne tombe jamais vraiment dedans si on n'en ressent pas le besoin à un moment. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, tu ressentes ce besoin de te pencher sur qu'est-ce que le bonheur et dans cet univers du développement personnel ?
Ouais. Bah, la réponse, c'est simple, c'est que j'étais mal. J'étais malheureux. J'avais l'impression d'avoir coché toutes les cases que la société m'avait dit de cocher. J'étais devenu avocat d'affaires à Wall Street. J'avais ce qu'on pourrait appeler une belle situation. Je gagnais beaucoup d'argent. J'avais le statut et tout, mais j'étais pas bien du tout. J'étais mal et je savais pas quoi faire de ma vie. Je pense que j'avais des symptômes dépressifs. J'ai eu des pensées suicidaires. J'ai commencé à beaucoup me tourner vers les substances. C'était juste... La vie n'était pas belle. Je me disais qu'il devait y avoir autre chose que ça. Et donc, cette recherche, au début, c'était une recherche qui était complètement égoïste. Je ne me suis pas dit, je vais essayer d'étudier le bonheur pour aider les gens qui ne sont pas heureux. C'était moi que je voulais aider. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'en découvrant les raisons de mon non-bonheur, j'ai découvert des choses qui concernent tout le monde. Ce phénomène qu'on appelle la tyrannie du mental, l'idée qu'on a un mental compulsif qui crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour, la plupart négatives, qui crée du stress, de l'angoisse, la peur, la jalousie, la culpabilité, les addictions, toutes ces choses, ça nous concerne tous. Et de comprendre qu'il y avait un travail qu'on pouvait faire par rapport à ça, un travail qu'on pouvait faire pour changer le rapport qu'on a avec son mental et ses émotions, ça a été une découverte incroyable qui a complètement changé ma vie. Et quand j'ai découvert ça, et ça a commencé avec les écrits de Eckhart Tolle, j'ai eu une révélation. Je me cherchais pendant des années, j'étais avocat et je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et quand j'ai lu ce bouquin, j'ai su que c'était ça ma vie. J'ai su que j'allais participer d'une manière ou d'une autre au partage de ces idées, parce que en lisant A New Earth de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, j'ai vraiment eu l'impression que je lisais le mode d'emploi de la vie. Et j'ai pas compris, je me suis dit, mais comment c'est possible que je savais pas ces choses? Comment c'est possible qu'on m'avait pas appris ces choses-là auparavant? Comment c'est possible que personne autour de moi est au courant de tout ça? Et c'est de là que c'est parti, en fait. C'est une véritable passion pour l'étude de tout ça, pour l'expérimentation et pour ensuite le partage.
Ok, bah, c'est hyper intéressant et j'ai hâte même de savoir bah, ce dont tu nous parles, comment tu as réalisé ce qui te rendait malheureux et comment tu as réalisé que ça concernait d'autres gens. Et pour en venir un peu avant, pour essayer de comprendre d'où tu viens, etc., quel a été un peu juste ton parcours, toi? Comment est-ce que tu te décrirais enfant? Voilà, comment tu as grandi et pourquoi tu as choisi de devenir avocat?
J'étais un enfant un peu précoce, j'étais un enfant très gâté. Ma mère n'avait pas eu beaucoup d'attention quand elle était petite, et donc elle a essayé de faire l'inverse. Ce qui n'a pas toujours été une bénédiction pour moi, parce que ça a rendu, je crois, mes contacts avec les enfants du même âge difficiles quand j'étais petit. J'ai eu une enfance où j'étais beaucoup en contact avec les adultes. Je crois ce qui m'a permis d'apprendre à construire un argument et à parler avec des adultes, mais qui peut-être m'empêchait un peu de jouer. Je suis devenu avocat un peu par hasard. Mes deux parents avaient été avocats. Ils avaient tous les deux arrêté, ma mère pour devenir artiste, mon père pour devenir entrepreneur. Et il y avait cette conviction dans la famille que le droit menait à tout. C'est un truc un peu ancien, aujourd'hui c'est plus si vrai que ça, mais à l'époque de mon père notamment, qui était américain et qui était allé à la fac de droit de Harvard dans les années 50, tu faisais du droit, tu pouvais tout faire. Tu pouvais faire du business, tu pouvais être avocat, tu pouvais faire de la politique, tu pouvais... Donc il y avait un peu cette idée-là, et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'étude du droit, et il s'est trouvé que contrairement à la pratique plus tard, j'ai adoré étudier le droit, j'ai adoré l'argumentation juridique, j'étais vraiment dans mon élément. J'étais un lycéen assez moyen, mais en revanche, quand je suis devenu étudiant, je commençais à vraiment être bon. Et donc ça s'est un peu fait naturellement. Je me suis retrouvé à gagner des concours, à partir pour faire mes études aux États-Unis. Et j'avais 20 ans, j'étais à New York et j'avais déjà des offres d'embauche. C'était en stage, on était payé 10 000 dollars par mois alors que j'avais 20 ans. Enfin, c'était complètement surréel. J'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Et il y avait ces offres qu'on me faisait, donc c'est comme ça que j'ai été naturellement vers cette carrière, en me disant, bon, c'est déjà un premier pas, ça peut pas me faire de mal, je pourrais toujours faire quelque chose plus tard, et puis déjà ça va me permettre de gagner de l'argent et d'avoir un premier taf.
Ouais. Et donc à cette époque, tu n'avais pas du tout encore été sensibilisé à voilà, tout ce qui est développement personnel. Est-ce que tu avais déjà peut-être des... Enfin, tu avais déjà ce sentiment d'être malheureux ou non? C'est vraiment venu après dans ta pratique du métier d'avocat. Enfin, comment tu penses niveau enfin, mentalement, quoi? Tu te situais quand tu étais ado et jeune adulte?
J'avais hyper conscience d'à quel point j'avais des milliers de pensées dans ma tête. Mais l'erreur que je commettais, c'était de me dire que c'était un signe d'intelligence. Je me disais, t'es super intelligent, t'as plein de pensées. Je savais pas que tout le monde avait plein de pensées. Je pensais que j'étais un cas à part, alors que c'est pas le cas du tout. Et je comprenais pas que c'était à quel point c'était une malédiction. En revanche, j'avais un instinct, même si je pouvais pas encore mettre de mots dessus, que j'avais pas accès à l'instant présent. Quand j'ai fait ma dépression en rentrant de ma première année de fac à New York, mon père m'a suggéré de prendre une année sabbatique. Ce que j'ai fait, vu que je gagnais des sous en stage, j'ai pu partir faire le tour du monde. Et c'était génial, mais j'avais éminemment conscience qu'il y avait il y avait un problème, en fait. Notamment, j'ai eu une image qui me vient à mi-chemin de mon tour du monde. Je me retrouve après 3 jours de marche dans la cordillère des Andes. J'arrive à Machu Picchu, la cité perdue des Incas, et je suis face à cette merveille. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Oh, la météo est pas assez bien, on voit pas bien, c'est tout Machu Picchu, c'est beaucoup moins impressionnant qu'encore. Et je voyais, si tu veux, j'étais victime de ces pensées, ça veut dire j'étais devant quelque chose d'exceptionnel. Donc j'étais au paradis à l'extérieur et en enfer à l'intérieur. Je savais pas que c'était à cause de mon mental compulsif, je savais pas que c'était parce que je savais pas gérer mon mental, et je savais pas que le problème que j'avais, et qu'on est un peu tous à avoir, c'est une impossibilité, ou en tout cas une difficulté de connecter à l'instant présent. Donc pour répondre succinctement à ta question, maintenant que j'ai fait le long développement, j'avais un instinct, mais c'est en découvrant les écrits de Eckhart Tolle que j'ai enfin pu mettre des mots. Et ces mots, c'est l'ego, c'est l'instant présent, c'est le mental compulsif, c'est la tyrannie du mental.
Ok, donc tu as déjà expérimenté une dépression assez jeune au final, après cette première année de fac. Donc tu as adoré étudier le droit, mais tu as quand même fait une dépression, c'est ça? Comment est-ce que, enfin, à quoi tu penses qu'elle était due, cette dépression?
Quand je suis arrivé, la fac de droit à Paris, c'était super. C'était pas trop dur, hyper intéressant et tout. Et mon rêve, c'était d'aller à la fac aux États-Unis parce que mon père l'avait fait et je l'idolâtrais. C'était un peu la mythologie familiale qu'il était sorti 3e de Harvard dans les années 50. J'avais envie de faire comme lui. Et donc, j'ai réussi à arriver à 20 ans à la fac de droit de Columbia au travers un concours. Et je pensais que j'allais arriver dans une fac comme dans les films.
Ouais,
Tu
grave.
sais, que ça allait être la fête, que j'allais draguer des filles, que voilà, que ça allait être le campus trop beau et tout. Et à la place, je me suis retrouvé dans un des bastions de l'élitisme coupe-gorge américain. J'étais le plus jeune de ma promo, j'avais 20 ans, la moyenne d'âge c'était 25 ans parce que c'est graduate, et donc là-bas c'est 4 ans de collège plus en moyenne 2 ans de travail, donc ils étaient à 6 ans post-bac, moi j'étais à 2 ans post-bac, ce qui est une énorme différence. La première fois que je vivais seul, eux, il y en a qui étaient mariés, je savais pas payer des factures, je savais pas tout ça, j'ai dû tout apprendre et tout, et en même temps survivre dans ce climat qui était pas du tout un climat hippie, c'était un climat où on partageait pas ses notes. C'est un climat où chaque examen était un concours. Et donc c'est ça en fait. Si tu veux, c'est venu trop vite. C'est comme si je m'étais moi-même fait, enfin, on m'avait volé ma jeunesse, quoi. Et me rendant compte que j'étais arrivé sur un tapis roulant vers Wall Street, alors que tout ce que je voulais, moi, c'était faire la fête sur un campus, c'est ça qui a été très difficile pour moi à accepter. En plus, j'étais terrorisé, si tu veux. Je suis franco-américain, ma mère française, mon père américain, et même si je parle anglais depuis que je suis petit et que j'allais tous les ans aux États-Unis, je me sentais pas vraiment américain. Et pour moi, pour me rapprocher aussi de mon père et de cette partie de ma culture, c'était important de me sentir égal aux autres américains. Je voulais surtout pas être le Frenchie qui était là, et donc je me mettais une pression incroyable, parce qu'en plus, à la fac de droit aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle la méthode socratique, qui est, tu sais, l'idée de Socrate de faire accoucher l'esprit par des séries de questions. Et la façon dont ça se manifeste, c'est que tu es dans une sorte de petit amphi, dans ta promo, on est une centaine, et le prof choisit une ou deux ou trois personnes pour le cours, qui dure 1 heure et demie, et il les bombarde de questions. Bombarde sur les lectures du jour, et en général, pour chaque cours, tu peux avoir jusqu'à 150-200 pages à lire, c'est délirant. Et donc moi, j'étais terrorisé de ce truc de, comme ils disent là-bas, se faire cold on, et que j'allais être bombardé de questions, et que j'allais pas savoir répondre, et que j'allais être humilié, et que tout le monde allait le savoir, parce que ça se passait comme ça. Parce que les quelques personnes à qui c'est arrivé, c'était le tampon, quoi. On les regardait, et ce qu'on savait, lui, c'est celui qui s'est fait cold on, qui savait pas, et qui pendant 1 heure et demie s'est fait humilier par le prof. Et c'est terrible. Et moi, j'avais envie d'être accepté, j'avais envie de pas être le Frenchie qui savait pas. Donc, tous les soirs de ma première année, j'étais le dernier à la bibliothèque qui fermait à minuit. Je me faisais virer tous les soirs par le mec de la bibliothèque. En période d'examen, c'était 2 heures du matin. J'étais à la fermeture tous les soirs parce que j'étais tétanisé. C'était le syndrome de l'imposture qui m'a jamais vraiment quitté, mais qui était au plus fort à ce moment-là. Et c'était trop. Quand je suis rentré, c'était, j'avais plus de vie, quoi. C'était que ça. Je vivais pour survivre et pour ne pas être humilié. Et quand j'avais 20 ans. Et puis il y avait personne, en fait, de mon âge, qui venait du même endroit, avec qui je pouvais connecté, avec qui on pouvait se dire oh, c'est dur et tout. J'étais avec des gens que je comprenais pas et qui me comprenaient pas non plus, donc c'était dur.
Ouais. Donc j'imagine ouais ton retour pas facile. Est-ce que donc ouais tu décides avec ton père te conseille de faire une année sabbatique. Comment est-ce que tu te dis que tu vas vivre cette année? Est-ce que tu te voilà tu t'octroies une pause sans trop de difficultés? Parce que quand on est dans cette tyrannie mentale, c'est même dur quoi de se dire bah non parce que s'il y a cette recherche de perfectionnisme, on va se dire ah bah non faut que je continue. Enfin est-ce que tu pensais reprendre après? Tu te situes un peu comment à ce moment-là?
Ouais, je savais que j'allais reprendre. En fait, je faisais un programme en 4 ans entre Columbia à New York et la Sorbonne à Paris. Et donc, j'ai décidé de faire une coupure entre les 4 ans pour faire ce voyage. La façon, au début, quand mon père m'a dit, tu devrais peut-être prendre une année sabbatique, tout ça va trop vite pour toi. Je me disais, ouais, c'est une bonne idée, mais je savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai eu la chance, parce qu'il y a aussi des choses géniales dans cette fac à Columbia, d'avoir gagné une bourse après ma première année à New York pour aller travailler dans les droits de l'homme au Zimbabwe. Et donc j'ai été au Zimbabwe où je travaillais pour une ONG là-bas et aussi j'étais stagiaire à la haute cour. Et j'avais voyagé, mais pas, c'était la fin des années 90. J'avais voyagé peut-être aux États-Unis ou en Europe, mais j'étais jamais vraiment allé au fin fond de l'Afrique comme ça. Donc je connaissais pas du tout le voyage. J'étais en costume cravate parce que c'est comme ça qu'il fallait être. Au Zimbabwe, c'est très formel en tant qu'ancienne colonie anglaise. Mais je dormais dans des auberges de jeunesse la première fois de ma vie. Et donc j'étais entouré de backpackers, de voyageurs à sac à dos qui me voyaient, des gens avec leur sac à dos, leur dreadlock, leur truc, et qui me voyaient le matin en costume cravate du haut de mes 21 ans. Et moi, je les regardais et ils avaient un livre. Sur la table, tous, qui s'appelait Lonely Planet. Et j'avais jamais entendu parler de Lonely Planet, c'était une autre époque. Je connaissais personne et je les voyais à la table du petit-déj, et ils se demandaient, demain, est-ce qu'on va en Zambie, ou est-ce qu'on part au Botswana, ou est-ce qu'on va au Malawi? Et j'étais là, mais attends, c'est possible d'être avec ton bouquin à la salle à manger de l'auberge de jeunesse et de décider dans quel pays tu vas aller demain, t'as pas besoin de réservation, de trucs et tout. Et j'ai appelé mon meilleur pote après ça et j'ai dit, mec, on part faire le tour du monde. Il y a des livres
Qui t'apprennent à faire le tour du
qui
monde.
t'apprennent à faire le tour du monde. Et c'était une époque où il y avait des billets tour du monde, ça coûtait 2000 euros
Ah
pour.
oui.
J'étais 2000 euros pour 16 vols.
Je crois que le fondateur de Nike a fait ça.
Ouais, Phil Knight.
Phil Knight,
T'as,
ouais.
ouais.
L'art de la victoire.
Ouais, c'est
Ouais.
génial ce livre.
Ouais, il
Ouais.
est très inspirant. Bon, malheureusement, Nike est quand même devenu, bon, questionnable. Mais ok, c'est vrai qu'il y a plus du tout ce principe. Et donc, ouais, tu vas un peu sur un coup de tête et t'enchaînes ça après la fin de ton stage, du coup.
La fin de mes études et
À la fin des 4 ans, du
la
coup.
fin des 4 ans. Je reviens à la
Donc, t'as quand
fac à
même
Paris.
vécu 3 ans. Est-ce que c'était similaire à ta première année ou t'as réussi à
Non,
reprendre une bouffée d'air?
à Paris, c'était
Ah, t'es resté à Paris, t'es pas retourné à Columbia.
c'était 2 ans à Columbia. J'ai fait mon année de tour du monde et ensuite 2 ans à Paris.
D'accord.
Pour finir le double cursus.
Ok.
Et là, c'était trop bien.
Ouais.
Enfin, la fac à Paris, après ce que je m'étais tapé, c'était des vacances.
Ouais,
C'était
ouais.
facile.
Et donc c'est à ce moment-là que tu tombes sur les écrits d'Écartolé?
Non, en fait, ça a été bien plus tard, parce que après avoir fini mes études, j'ai commencé donc en tant qu'avocat d'affaires à Wall Street, et j'ai fait 6 ans de ça.
D'accord.
Je m'étais dit que j'allais faire 3 ans, et au bout de 3 ans, on m'a proposé de me renvoyer à Paris en tant qu'expatrié, donc de doubler mon salaire qui était déjà mirobolant, de me ramener chez moi. C'était l'offre de Don Corleone que tu peux pas refuser. Donc j'ai étendu le bail, mais c'était terrible. C'est pour chaque euro que j'étais payé, je le rendais d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Mon père est tombé malade, c'était il y a une dizaine d'années. Et là, ça a été un peu trop pour moi. Ce travail qui me faisait pleurer, je pleurais au travail. C'était mon père, à qui je tenais tant, qui avait une maladie dégénérative du cerveau et avec qui je pouvais plus trop connecter. Et donc là, j'ai décidé de tout plaquer. De non seulement quitter mon cabinet d'avocat, mais quitter la carrière d'avocat et partir. Au début, je me suis dit que j'allais m'acheter un peu de temps. Et donc, j'ai repris des études. J'ai été faire un MBA à Los Angeles. Je suis parti en Californie parce que mon père venait de là-bas. Je pouvais plus communiquer verbalement avec lui. Donc, je voulais communiquer d'une autre façon avec lui, avec ses racines. Et je suis parti à UCLA pour faire de l'entrepreneuriat. Monter une start-up, c'était ça le nouveau rêve. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai monté une start-up qui a pas marché particulièrement bien, mais c'est là-bas, en Californie, que j'ai découvert les écrits d'Eckhart Tolle, que j'ai découvert Burning Man, que j'ai découvert le yoga, que j'ai découvert une autre manière de m'alimenter et que j'ai découvert en fait une autre manière de vivre. Et c'est là qu'il y a eu vraiment le déclic. Et c'est là en Californie, il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans, que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin. Ayant découvert tous ces principes, ces techniques, j'avais à cœur de partager avec d'autres, mais pas en tant que professeur qui savait, mais en tant qu'un peu grand frère. Tu vois, genre, j'ai déjà commencé un peu le travail, juste partage avec toi. Ce que j'ai découvert pour l'instant, parce qu'il y avait déjà énormément. Et c'est comme ça qu'est né un peu l'ancêtre des antisèches du bonheur. J'ai travaillé sur ce projet de bouquin pendant 2 ans, sûr qu'il allait terminer numéro 1 sur le best-seller du New York Times et tout. Et en fait, c'est allé nulle part. Au bout de 2 ans, je l'ai envoyé à des agents d'auteur et j'ai eu aucune réponse. Et c'est là que j'ai des proches qui m'ont convaincu de créer un blog, alors que je lisais pas de blog, que j'en consommais pas. C'était une époque où les réseaux sociaux c'était pas comme aujourd'hui.
Ouais, c'était au début, quoi.
Ouais, c'était au tout début.
Et avant d'en arriver du coup à cette partie-là de l'aventure, je me demande si pendant ces années où tu luttais un peu contre la dépression et où t'étais malheureux, est-ce que t'as essayé des choses pour essayer d'aller mieux, mais qui en soi étaient assez vaines? Parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent. Qui sont un peu dans cette recherche d'aller mieux. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'on est tellement bombardé d'informations que c'est très difficile de savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Donc beaucoup essayent différentes choses, mais je me dis, si toi t'es passé par là, et avec le recul, tu te rends compte qu'il y avait des choses, c'était des leurres, on peut peut-être les aider, tu vois, à gagner du temps.
Ouais, je pense que ça va être un scoop pour personne, hein. J'ai pris beaucoup de coke, je faisais beaucoup la fête, je prenais plein de drogues récréatives. C'était ça mon échappatoire.
Donc assez, ouais, assez radical, quoi.
Ah
Ouais.
ouais, c'était je dès que je finissais le travail, je fumais des pétards. Le week-end, je prenais de la coke. Puis j'ai commencé à découvrir d'autres sortes de drogues, d'autres sortes de fêtes. Puis ça, c'est devenu vraiment. C'était ça maintenant ce qui me. Et puis c'était un échappatoire formidable, hein. Je veux dire, je suis tellement ravi aujourd'hui de plus consommer tout ça, mais je regrette absolument pas de l'avoir fait. Je le conseille absolument pas non plus. Ce que je conseille, c'est cette approche que j'ai découvert aujourd'hui, parce que je pense que t'as pas besoin de passer par là. Mais je sais que moi, ça m'a aidé aussi à découvrir d'autres choses. J'ai eu certaines expériences qui m'ont ouvert à ce qu'on pourrait appeler une démarche spirituelle. Pas la coke,
Mais ça, honnêtement, parlons-en un petit peu parce que j'écoute plus beaucoup de podcasts américains alors que j'ai vachement commencé les podcasts par ça. Peut-être parce qu'il y en a de plus en plus en français et que peut-être ça me parle plus. Mais Tim Ferriss, qui est un grand podcasteur aux États-Unis que tu dois connaître,
Bien sûr.
parle beaucoup de ce sujet-là. J'ai écouté plusieurs épisodes où il reçoit des spécialistes. Je ne sais pas exactement quelle drogue c'est, mais où il y a des espèces de maintenant d'encadrement où on t'emmène, où tu vas dans un centre spécialisé, on te fait prendre la drogue et en fait t'as un voyage spirituel incroyable. Et forcément, moi ça me questionne, tu vois, en tant que française, il y a un peu ce côté la drogue, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est extrêmement grave, etc. Tu vois, mais ça, je trouve ça intéressant, quoi, de se dire Comment ça se fait que aujourd'hui, ce soit quand même utilisé à des fins thérapeutiques, quoi, des drogues assez fortes.
Ça, je pourrais te parler longuement sur la question parce que c'est un thème qui me passionne. D'ailleurs, si y a des personnes qui sont intéressées, qui nous écoutent, il y a un livre de Michael Pollan qui est fantastique, qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience. En anglais, c'est How to Change Your Mind. Si tu veux, déjà, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les drogues récréatives, et de l'autre, il y a des substances qui sont plus exploratives. Le problème, c'est que aussi en fonction de la manière dont tu t'en sers, la frontière peut être pas évidente. Mais globalement, si tu prends quelque chose comme la cocaïne, l'alcool, il s'agit de là de drogues qui sont que pour te faire te sentir bien, qui ont absolument zéro intérêt d'exploration, d'ouverture de conscience. De l'autre côté complètement de la frontière, tu as des plantes qui viennent de la terre, qui sont des plantes comme les champignons, par exemple, qui contiennent de la psilocybine, qui sont utilisées de façon rituelle, de façon cérémoniale, d'une façon qui n'est pas du tout dans la fête, depuis des millénaires, et qui permettent effectivement d'accéder à des états de conscience qui sont complètement différents. Après, le problème qu'il y a eu avec l'histoire de tout ça, c'est qu'il y a une découverte hyper importante qui a été la découverte du LSD. Le LSD, ça ressemble un peu aux effets des champignons hallucinogènes, si tu veux. Et le LSD te permet, dans certains cas, d'avoir des vraies expériences spirituelles. Moi, j'ai eu, sous LSD, ma plus belle expérience de connexion à la nature, qui a complètement changé ma connexion à la nature. J'étais au Sri Lanka, j'ai pris du LSD, je suis parti en méditation, et j'ai senti Gaïa, j'ai senti, j'étais un avec les plantes, un avec l'océan, je rejoignais la conscience unique, je rentre dans des choses un peu ésotériques. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que le LSD a été très mal utilisé. Il y a eu des dérives, parce que si tu t'en sers dans un mauvais contexte, avec les mauvaises personnes et d'une mauvaise manière, ça peut être terrible. Et c'est la drogue du bad trip. Et à partir de là, il y a eu le gouvernement américain, c'est là qu'est partie la guerre contre les substances. Ce qui est compliqué, c'est que, et dommage, c'est qu'il y avait, il y a eu une vingtaine d'années avant ça, dans les années 60, de recherche qui montre que les psychédéliques, donc les champignons, le LSD, utilisés d'une façon thérapeutique, comme tu décrivais, ont un potentiel incroyable. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'on en reparle beaucoup aujourd'hui et que des gens comme Tim Ferriss en parlent, depuis une vingtaine d'années, il y a un renouveau de la recherche permise par le gouvernement sur les bienfaits thérapeutiques de ces substances, vu qu'il y a, il y a un mauvais souvenir avec le LSD, c'est surtout concentré autour des champignons. Mais ce qu'on voit aujourd'hui notamment, c'est que il n'y a rien de plus efficace, par exemple, pour de traiter la dépression qu'un traitement aux champignons, avec un thérapeute encadré, etc. On s'est rendu compte que les champignons étaient extrêmement utiles aussi pour gérer les anxiétés en fin de vie. Des personnes qui ont un diagnostic terminal vont faire un trip et vont ne plus avoir peur de la mort. On sait que c'est extrêmement utile avec les addictions. Il y a un renouveau qui est en train de se passer parce qu'il y a une promesse incroyable de ça. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on mélange un peu tout. Si on pense que les champignons, c'est pareil que la coke, que prendre la coke en boîte ou alors prendre avec un thérapeute des champignons dans une séance où tu fermes les yeux et où tu es guidé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Il y a une promesse qui est immense. Quelque chose qui est hyper intéressant dont parle Michael Pollan, c'est le DMN, le Default Mode Network. Apparemment, c'est cette partie dans notre cerveau qui est comme un réseau et qui est ce réseau au travers desquels communiquent les différentes parties de notre cerveau, qui serait le siège de notre ego, qui est l'ordre en fait dans notre cerveau. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui sont toxicomanes, qui sont dépressives, qui ont des gros problèmes d'anxiété, etc., ont un DMN qui est trop fort. C'est-à-dire qu'il y a trop d'ordre dans le cerveau. Je suis trop en boucle sur moi et mes problèmes. Je suis trop en boucle sur ma dernière dose, ma prochaine dose. Je suis trop en boucle sur tout ça. C'est l'ego qui est trop fort. Et ce que permet la méditation, si tu la pratiques beaucoup, beaucoup, mais à plus forte raison des plantes comme ça et d'une manière vraiment immédiate, c'est de faire péter le DMN. Et donc de permettre à différentes parties du cerveau de communiquer directement au lieu de communiquer au travers ça, ce qui crée des nouvelles pensées. L'image, c'est dire que c'est comme si nos pensées, c'était des pistes de ski hyperbalisées. Et donc on prend toujours les mêmes pistes. Et donc si on est en boucle sur nos problèmes, sur nos addictions, sur nos anxiétés, c'est toujours la même piste. Et ce que vient faire notamment une séance avec des champignons, c'est que il n'y a plus de pistes. Et donc tu peux voir soudainement, en une prise, tes problèmes ou des choses qui sont des vrais obstacles dans ta vie sous un angle qui est complètement différent. Et aujourd'hui, il y a un usage thérapeutique de ces plantes et même d'autres substances qui sont chimiques, mais d'une façon encadrée, qui permettent à des victimes de viol de parler de leur expérience et de se libérer de leur trauma, qui permet à des personnes qui ont des chocs post-traumatiques de s'en libérer, ça permet d'aider la dépression. Enfin, le potentiel thérapeutique est incroyable, incroyable.
C'est vrai qu'en fait, tout de suite, moi, je me dis, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que ça permet des changements de long terme ? Parce que l'image que j'avais de la drogue, c'est, en fait, voilà, après, t'en redemandes sans cesse, tu vois. Donc, les champignons, d'après ce que tu me dis, ça permettrait même avec une, deux ou trois prises d'opérer des changements de long terme. Enfin, tu vois, le DMN dont tu nous parlais, ça le fait péter, mais est-ce qu'après, une semaine après, il revient un peu comme il était ou ça peut permettre durablement un peu de remoduler le cerveau.
Ce que montrent les études, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas systématique, mais qu'une prise peut, en te faisant voir quelque chose de différent, complètement changer ta perception. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas chaque personne qui va s'asseoir, qui va s'allonger et prendre une dose de psilocybine avec un thérapeute qui va abandonner ses addictions. Mais tu vas avoir des personnes avec qui ça va fonctionner en une seule prise. Tu vas avoir des personnes qui, si tu veux, qui sont complètement terrorisées à l'idée de mourir et qui ont un diagnostic terminal et qui, en une fois, vont avoir une expérience spirituelle, comme certaines personnes vont avoir une expérience, tu sais, avec des... Comment on appelle ça déjà les cas de mort imminente, où tu sais, où tu...
Tu meurs sur le moment, c'est ça ?
Oui, c'est...
tu rencontres un peu la mort, quoi.
Voilà. Ouais. Des cas comme ça, où t'es genre mort clinique, mais en fait, ouais, t'es pas vraiment mort et tu reviens.
Ouais.
Et NDE, des Near Death Experience, je sais plus comment c'est en français, mais où en une expérience, ça change complètement ta perception de la vie. Donc, ça peut, mais c'est pas systématique. Mais pour répondre à ton point, le problème qu'il y a, c'est l'amalgame qui est fait dans la société. Tu vois, quand tu dis la drogue, je pense que t'en prends et tu veux en reprendre. C'est comme si tout était la même chose. Mais les substances sont extrêmement différentes les unes des autres. C'est comme si tu...
C'est comme pour la nourriture, quoi.
Mais oui.
Manger de la viande, c'est pas pareil que manger des petits pois, quoi.
Mais c'est ça. T'as des choses qui sont extrêmement addictives. Le tabac, c'est extrêmement addictif. L'alcool, c'est extrêmement addictif. La cocaïne, l'héroïne, tout ça, c'est des substances qui sont extrêmement addictives. Et à côté de ça, tu as des substances qui ne le sont absolument pas du tout. Les champignons, c'est pas du tout addictif. C'est pas un truc où tu te dis « Oh, il me faut ma dose de champignons
ouais. ».
Ça marche pas du tout comme ça.
Mais alors pourquoi tu penses que c'est pas légalisé dans un cadre encadré par la médecine
Ça va l'être. Ça ne l'est pas à cause de ce qui s'est passé dans les années 60 avec Timothy Leary, avec les scandales aux États-Unis, avec les personnes qui ont fait des mauvais trips. Le problème, ça n'a jamais été l'addiction au LSD, ça a été les mauvais trips. Si tu le prends n'importe comment, c'est un truc très puissant. C'est comme si c'est une Formule 1, le LSD. Si tu prends et que tu sais pas ce que tu fais et tout, Oui, peut-être tu peux te faire mal. Oui, peut-être si t'es pas bien encadré, il y a des personnes qui sont jetées d'un balcon en pensant qu'elles pouvaient voler. C'est des choses comme ça qui se sont passées.
Ouais, donc comme ça a des potentiels effets dangereux, très dangereux, ils ont préféré sécuriser en interdisant totalement.
Ça n'a pas intrinsèquement des potentiels très dangereux. C'est que si tu t'en sers n'importe comment et que tu respectes pas le truc, alors ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est un drame, si tu veux, pour tout ce qui est la recherche neurologique, la recherche psychiatrique, qu'on ait arrêté. Les recherches, il y a eu près de plus de 40 ans, en fait, d'arrêt total de la recherche. Là, ça a repris. Et moi, je suis persuadé que les bienfaits sont tels que ça va forcément rentrer, ça va rentrer dans un cadre thérapeutique, parce qu'on ne peut pas se permettre, avec l'évolution de la dépression, avec tout ce qui se passe, avec les addictions qui existent, parce que justement, c'est ça le paradoxe, c'est que tu vois, si tu ne sais pas vraiment de quoi il retourne, tu te dis la drogue, c'est addictif, ces trucs et tout, alors qu'en fait, certaines de ces plantes sont la meilleure des solutions qu'on connaisse pour gérer ces autres problèmes qui sont les vrais problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans la société, c'est pas qu'il y ait des gens qui consomment des champignons dans la nature ou qui fassent des séances thérapeutiques avec ça. C'est les gens qui sont accros à l'alcool, qui sont accros à la coke, qui sont accros à l'héroïne, qui fument du crack. Ça, c'est des problèmes de société. Les explorations sous psychédéliques, c'est pas un problème de société. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention. C'est comme si tu donnes pas une voiture à quelqu'un qui est aveugle
ou qui sait pas conduire.
Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est quelque chose qui est pas dangereux si tu fais ça bien et dans des bons cadres, mais qui peut le devenir dans certains cas extrêmes. Mais c'est ces cas extrêmes dont on a parlé et qui sont restés dans l'inconscient collectif.
Et alors, donc, si je comprends bien, ça permet plus ou moins de se connecter à l'inconscient. Ouais, c'est un truc qui me fascine un peu, et je pense, comme tu disais en introduction, que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est neurologie. Il y a un peu, de ce que j'ai entendu de la part d'experts ou de personnes, même des personnes qui peuvent avoir, tu vois, des traumas ou des schémas répétitifs, on essaye de les résoudre avec les outils qu'on a, mais c'est-à-dire en essayant de travailler avec son cerveau conscient, alors qu'en fait, si tu travailles pas sur ton cerveau inconscient, bah, t'auras beau essayer autant que tu veux, ça ne changera rien. Et pour personnellement ne rien connaître encore dans ce domaine-là, quelles sont un peu les techniques aujourd'hui qui existent pour accéder à son inconscient et pour essayer de résoudre peut-être des schémas toxiques qui sont accessibles plus facilement peut-être que les psychédéliques?
Si tu veux, il me semble qu'il y a deux grandes voies qui existent, parce que la question que tu es en train de poser, en fait, moi je ne le dirais pas en termes d'inconscient, même si on peut parler de ce terme-là, parce que pour moi ça se rapporte trop à la psychanalyse, à Freud, qui aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont bonnes là-dedans, mais aussi qu'on regarde et où on n'est pas trop sûr. Je veux dire, il a découvert des choses exceptionnelles, mais oui, il y a des choses qui se passent à un niveau inconscient, mais la question que tu poses vraiment, je crois, c'est la question de la connaissance de soi, qui est le nœud du problème, qui est en fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on ne comprend même pas qu'on ne se connaît pas. On pense qu'on se connaît, mais ce qu'on connaît, c'est notre moi-histoire. Ce qu'on connaît, c'est nos goûts, nos aspirations, certains traits de personnalité, mais on ne se comprend pas véritablement nous-mêmes. Il y a un vrai travail de connaissance de soi, qui est un travail, et ça ne peut pas arriver comme ça. Et ce travail, il me semble, moi, qu'il y a... Alors oui, il y a une branche qui est, je crois, qui est une branche extrêmement prometteuse, qui est la branche des psychédéliques et du travail chamanique aussi, dont on n'a pas parlé, mais...
Que tu peux aborder, d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas trop...
On pourra parler, ça ressemble au travail avec la psilocybine, mais je veux pas forcément trop en parler parce que c'est pas un truc qui est forcément accessible à tout le monde. C'est du travail de l'ayahuasca, qui est un breuvage qu'on trouve, qui vient d'Amazonie, qui est aussi un travail. C'est pas psychédélique, c'est encore un truc un peu différent, mais ça donne des visions et c'est... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de partager ce qui peut parler à tout le monde. Et il me semble qu'il y a deux branches. En tout cas, moi, dans mon travail personnel de connaissance de moi-même, il y a deux grandes branches. Moi, j'appellerais ça le travail psychospirituel. Donc, il y a une branche qui est, à mon sens, qui est thérapeutique, et une branche qui est méditative. Donc, il y a, si tu prends la branche méditative, c'est le travail de comment est-ce que j'apprends à observer ce qui se passe en moi? Comment est-ce que j'apprends à observer des schémas répétitifs? Comment j'apprends à observer mes addictions, certains comportements? Comment est-ce que, au travers de ces exercices de respiration, de musculation de l'attention, je vais réussir à changer le rapport que j'entretiens avec mon mental, mettre une distance pour réussir à l'observer, parce que c'est seulement en l'observant que je vais mieux le comprendre. Et ça, c'est le travail, c'est la voie méditative. À côté de ça, tu as la voie thérapeutique, qui nous vient à la base de la psychanalyse, mais qui aujourd'hui a pris plein de formes. Il y a énormément de formes de thérapie. Qui permettent de mieux se comprendre, de comprendre ses blessures d'enfance, de comprendre comment on a réagi à ses blessures d'enfance. Il y a dans une des images que j'ai trouvées les plus utiles, moi, dans mon travail sur moi, c'est l'idée que, en fait, il y a quatre structures du moi. Tu as ce qu'on appelle le masque. Le moi inférieur, l'enfant blessé et le moi supérieur. L'idée étant que ton masque, c'est la personne que tu montres au monde. Ton moi inférieur, c'est tout ce qu'on pourrait appeler tes défauts, toutes les choses que ton masque cache. L'enfant blessé, c'est les blessures que tu aurais subies qui ont créé ce moi inférieur. Et derrière ces trois couches, ton moi supérieur, qui est l'enfant que tu étais, de la compassion, la créativité, etc. Si j'applique ça à moi, pour donner un exemple, mon masque, c'est masque mec sympa, mec cool, un mec qui réussit en fonction de ce que je veux montrer au monde. Mon moi inférieur, c'est tout mon narcissisme, mon matérialisme, mon égoïsme, ma peur, mon envie, toutes ces choses qui sont là et qui sont bel et bien là. Derrière, c'est mon enfant blessé, le petit Jonathan qui avait du mal à se faire des amis, qui avait un complexe de supériorité et d'infériorité. Et derrière ça, il y a mon moi supérieur qui est sans doute ma capacité, ma vraie capacité de créativité, de compassion, etc. Le problème qu'on a, c'est qu'on vit derrière notre masque et qu'on fait tout semblant que notre vrai moi, c'est notre masque. Le sage Prem Baba, il disait, c'est mieux une vraie colère qu'un faux sourire. L'idée, c'est comment est-ce que je vais commencer à être honnête avec moi-même? Comment est-ce que je vais comprendre qu'on a tous un moi inférieur? C'est pas vrai qu'on n'a pas tous de la merde en nous. On l'a. Et à partir du moment où notre seule façon d'évoluer, c'est d'apprendre à l'embrasser, d'apprendre à regarder cette ombre, à danser avec, à l'accepter, à lui donner de l'amour. Mais pour ça, il faut être prêt à enlever le masque. Il faut être prêt non seulement à enlever le masque, mais à accepter le moi inférieur des autres. Et ça, c'est le cœur du travail, c'est le cœur du travail qu'on peut appeler l'amour. Je peux seulement m'aimer si j'accepte les choses que j'ai pas envie de montrer. Et c'est seulement en acceptant ces choses que j'ai pas envie de montrer que je vais pouvoir accepter les choses que les autres n'ont pas envie de montrer.
Ça, on en revient un peu à ce dont je te parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement, mais moi, ma grande question, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Personnellement, j'ai conscience, je pense, de mon moi inférieur, et je pense l'accepter, mais dans les faits, je pense que ça l'est pas, parce que d'après ce que tu me décris, cette réalisation doit entraîner un changement assez important après dans notre façon de vivre, enfin, d'après ce que je comprends de ce que tu me décris.
Oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de couches à ton moi inférieur, à mon moi inférieur, à nos moi inférieurs. Je pense qu'on a conscience de certaines choses, mais qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. On se ment tous énormément à nous-mêmes. On se raconte des salades sur nos intentions, sur pourquoi on fait telle ou telle chose, sur pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Et ce travail d'introspection, il est quasiment infini. Il y a très peu d'êtres qui arrivent à l'éveil. Et c'est pour ça que il me semble pas que ce soit un objectif qui soit intéressant. En revanche, le travail d'évolution, lui, il est essentiel. Dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un qui m'aime pas? Dans quelle mesure est-ce que je suis capable au lieu de juger quelqu'un qui est pas gentil avec moi, de comprendre cette personne. Dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'envoyer de l'amour à des gens qui m'envoient pas de l'amour? Si, c'est ces questions qui nous permettent de savoir dans quelle mesure on a vraiment avancé sur ce travail-là. Parce que si on est encore dans nous et eux, et dans lui c'est un con, et lui il est comme ci, lui il est comme ça, et que on est encore tout jugement indique quelque chose qu'on n'a pas accepté en nous. Donc, et je pense que toi comme moi, les jugements, on en a.
Ouais, alors c'est vrai que personnellement, je juge vachement moins qu'avant. Et c'est vrai que c'est assez libérateur. Et je pense que c'est à partir du moment, en effet, où on arrête de se juger soi-même,
C'est ça.
qu'on arrête de juger les autres.
C'est ça.
Et c'est, ouais, ça, c'est vrai que pour le coup, c'est un des trucs, peut-être, quand j'en ai eu conscience, j'ai réussi à le changer. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Tu vois, j'ai conscience, par exemple, du fait que, il faut peut-être arrêter cette, recherche à la surproductivité, etc. Mais dans les faits, j'arrive pas à la changer, tu vois. Je ne suis pas satisfaite d'une journée où je n'ai rien fait. Et ça, c'est grave un truc, tu vois, j'aimerais, hein. Et dans les faits, j'y arrive pas.
Ouais, t'y arrives pas parce que c'est aussi ça la tyrannie du mental. C'est la tyrannie de l'histoire de ta vie. Tu veux pouvoir te raconter qu'une belle histoire sur ta vie. Et raconter une belle histoire sur ta vie, c'est raconter une histoire d'accomplissement. Tu fais quelque chose de ton temps. Quelque part, ce qu'il y a au bout de ça, de ce trou de l'Alice au pays des merveilles, c'est la peur de la mort. On a peur que l'histoire s'arrête. Pour que l'histoire, faire face à ça, on essaye de remplir l'histoire le plus possible. Et donc ça se manifeste dans le fait on a besoin de remplir nos journées. On a besoin, je parie que toi, hein. On a besoin de cocher des cases. On a besoin, et tout ça, et quelque part, ça, ça dénote, et j'en suis au moins autant que toi coupable, mais un manque d'amour de soi. Ça veut dire si je m'aime véritablement, inconditionnellement, j'ai pas besoin de justifier mon existence. J'ai pas besoin de cocher des cases. J'ai pas besoin de me dire que ma journée elle est bien remplie. Donc c'est pour ça que je te parle de ça, de l'amour de soi et de la compréhension de soi-même. C'est que en fait on se comprend pas vraiment. On se dit je m'aime bien, je me trouve sympa, je suis quelqu'un de généreux, je fais du bien aux gens. Je m'aime, mais si tu creuses, tu te rends compte que oui, il y a certaines choses que t'aimes en toi, mais il y a d'autres que t'aimes pas véritablement. Et c'est en ça que le travail il est complexe, c'est que t'es à l'aveugle et que t'as l'impression de comprendre certaines choses et que tu te rends compte plus tard que tu les comprends pas. C'est, je crois que c'est Socrate à la fin de sa vie qui a dit la seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Et moi, c'est quelque chose que je ressens très, 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 très fort, ça. Comment, plus j'évolue, plus je me rends compte que y a des choses que je prenais pour sûres qui, en fait, ne le sont pas du tout. C'est toute l'idée de ces concepts qu'on transforme en croyances et qu'on rajoute, justement, à la projection qu'on fait sur la personne qu'on est véritablement et qui vient agglomérer toutes ces croyances. Mais et puis je sais que c'est un travail que tu as fait de déconstruire les croyances et les conditionnements, mais il y en a certaines et certains qui ont la peau bien plus dure que d'autres. Et quand la lumière est pas sur ça, c'est difficile parce qu'on est dans le noir. On peut pas savoir qu'on se connaît pas. On peut le croire. Moi, je suis arrivé à le croire et à le comprendre maintenant. Ça me permet de plus travailler pour essayer de me comprendre, mais bon, je suis qu'au tout début d'un chemin.
Et justement, quand tu entames cette reconversion totale, qu'est-ce qui, tu penses, t'a le plus aidé comme réalisation, même si on redirigera vers tes livres qui, je pense, peuvent beaucoup aider les personnes qui nous écoutent. Si tu pouvais partager comme ça quelques, je sais pas si on peut appeler ça des outils, si on peut appeler ça des prises de conscience, mais que tu aimerais peut-être nous partager qui ont vraiment eu un impact assez important sur ta vie.
Les ingrédients clés du bonheur, le premier truc, c'est le sommeil. C'est l'ingrédient numéro un. Soigner son sommeil. C'est la plus grande cause de non-bonheur, c'est un mauvais sommeil.
Incroyable.
Quelque chose avec lequel j'ai lutté pas mal, moi, mais donc c'est, tu vois, c'est un truc con, je te dis, mais tout ce qu'on dit sur les écrans le soir, hein, sur pas regarder la série de plus, sur faire attention à ce qu'on mange par rapport à son sommeil, observer qu'est-ce qui nous fait moins bien dormir, qu'est-ce qui nous fait mieux dormir, ça déjà, c'est le truc numéro un. Ensuite, il y a, mais, enfin, au même niveau, on va dire, mais il y a ce que tu manges et comment tu traites ton corps à part ça, donc dans quelle mesure tu lui donnes de l'exercice, tu lui fais du bien. Et puis, évidemment, et ça c'est moi ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est comment tu gères ton mental. Et pour les deux petits trucs qui transforment complètement le rapport au mental, c'est deux habitudes, moi, qui ont complètement transformé ma vie, qui sont la pratique de la méditation et la pratique de la gratitude. Pratique rituelle quotidienne de chacune. La méditation, qui peut être, comme tu le sais, à peine une dizaine de minutes par jour, et la pratique de la gratitude, qui peut prendre à peine 30 secondes. Moi, je le fais sous ma douche. Aujourd'hui, à chaque fois que je prends ma douche, je dis cinq choses spécifiques, au moins, pour lesquelles je suis reconnaissant depuis la dernière douche. La super partie de tennis avec mon pote Steve, le super échange avec Louise, la délicieuse salade avec des radis, des fraises et des grenades que j'ai mangées hier. L'idée, c'est comment est-ce que tu te sers de la neuroplasticité pour changer l'allocation naturelle des pensées négatives et positives dans le cerveau, étant entendu que le biais de négativité fait que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et pèse plus lourd que la pensée positive, ce qui fait que on a tous toujours des problèmes et que souvent ces problèmes nous apparaissent plus gros qu'ils sont véritablement, mais que tu peux corriger ça avec des petits exercices. Donc ça, c'est la gratitude et la pratique de la méditation qui te permet vraiment de mettre une distance avec cet outil, donc pour apprendre à t'en servir plutôt que le laisser se servir de toi, parce que le mental est en coup d'état permanent, et tu peux pas le laisser. J'avais trouvé ce dessin quand j'étais en Sicile d'un c'était le cœur qui porte le cerveau. L'idée, c'est quoi l'interaction entre le cœur et le cerveau? Le cœur, si tu prends une autre image, tu prends l'image d'une voiture et d'un chauffeur, le cœur, c'est le passager. Et le cerveau, c'est le conducteur. Et le cerveau, il est censé amener la voiture là où ça va être bon pour le cœur. Le problème, c'est quand le cerveau devient fou et il n'écoute pas le passager. Et il va là où est-ce qu'il a envie d'aller. Par exemple, il décide que c'est une bonne idée de s'embrouiller avec quelqu'un. Il décide que c'est une bonne idée parfois. Parfois, il y a des conflits qui sont nécessaires. C'est pas pour dire qu'il faut avoir aucun conflit, mais souvent, on rentre dans des conflits qui sont inutiles. Souvent, on rentre dans des cycles de pensée qui sont nocifs. Et si on ne sait pas dompter le cerveau, on est foutu. Et on gaspille un temps et une énergie pas possible, et on fait du mal à son corps avec des réactions physiologiques telles que les poussées de cortisol qui tu sais, avec l'hormone du stress et qui font baisser nos défenses immunitaires, qui peuvent faire arriver toutes sortes de maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. L'idée vraiment, c'est le mental, c'est un chien. Tu peux le voir comme un chien. C'est un chien fou, qui peut te mordre ou mordre les autres. Il te mord toi-même avec de l'anxiété, avec du stress, avec de la jalousie, avec de la tristesse, avec la colère, avec toutes ces choses. Et il peut mordre les autres avec des conflits inutiles, avec de la médisance. Et l'idée, c'est, si tu veux vivre bien, vivre heureux, vivre une vie aimante, comment est-ce que tu fais pour dompter ce chien? Comment est-ce que tu fais pour transformer le chien fou en chien de garde ou en chien d'aveugle? C'est ça le challenge. Et ça demande du taf. Comme si tu veux dompter un chien, ça demande du taf. Et ce taf, c'est comprendre des principes. C'est sur ça que j'écris. Et puis les mettre en pratique. C'est la pratique de la méditation. D'ailleurs, je vois cette appli Seven Mind dont tu te sers pour la méditation et mes livres, si tu veux, ou d'autres livres, hein, tels que les livres d'Eckhart Tolle ou les livres de Don Miguel Ruiz ou plein d'autres, c'est un kit. Tu as besoin de la théorie et tu as besoin de la pratique. Donc, mon meilleur conseil, c'est lire un peu sur la tyrannie du mental, comprendre un peu de quoi il est question et pratiquer. Ça ne demande pas plus d'une dizaine de minutes par jour, mais c'est essentiel.
Et quelle est la place du corps pour toi dans tout ça? Parce que de ce que j'ai lu un peu dessus, c'est pour les personnes qui, comme moi, ont du mal à sortir du mental et à dompter justement leur mental, souvent ça vient d'un manque de connexion avec le corps. Bah pareil, je trouve ça très vrai. C'est vrai que moi, je ressens plus les émotions dans ma tête que dans mon corps. Mais je sais pas comment, en pratique, arriver à reconnecter ça, à reconnecter les deux.
Une manière de répondre à ta question, c'est de revenir aux enseignements de Bouddha. Avant Bouddha, il y avait beaucoup d'enseignants qui disaient la souffrance humaine vient de l'attachement, vient du désir de certaines choses qui ne sont pas accessibles et du rejet d'autres choses qui sont là. Et Bouddha, il arrive et il dit vous avez raison, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que à la base de toute pensée, à la base de toute émotion, il y a une sensation physique dans le corps. Que cette sensation physique, tout comme tout le reste dans l'univers, est impermanente. Et si j'apprends à observer cette sensation physique sans y réagir compulsivement, je peux la laisser passer. Et donc, cette connexion au corps, elle est essentielle. Le Bouddha, il a créé cette pratique méditative qui s'appelle Vipassana, qui dit, la traduction, c'est voir les choses telles qu'elles sont, et qui consiste en fait à apprendre à observer, à travailler le mental et les émotions, mais au travers de l'observation des sensations dans le corps. Auparavant, j'ai tendance à beaucoup m'engueuler avec ma mère, ou en tout cas j'avais tendance à beaucoup m'engueuler avec ma mère. C'est la personne avec qui je m'engueulais. Alors, même si c'est pas vrai, je m'engueulais avec tout le monde, mais quand j'ai arrêté, particulièrement avec ma mère. Donc si ma mère faisait quelque chose qui m'énervait, je sentais pas que j'avais une sensation, un truc dans le plexus qui se tendait et tout. Il y avait des histoires qui venaient dans ma tête et je rentrais dans ces histoires et pourquoi elle avait tort, pourquoi j'avais raison, pourquoi c'était injuste, etc. Aujourd'hui, si ça se passe, il y a un même truc, une agression par exemple, quelque chose, je suis capable de regarder la sensation dans le corps, de respirer avec cette sensation dans le corps et de la laisser passer. Je comprends qu'à ce moment-là, c'est une différente partie de mon cerveau qui est aux commandes. C'est plus la partie plus nouvelle du néocortex qui est capable de compassion, mais c'est l'ancienne partie reptilienne de l'amygdale qui s'occupe de la peur et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. C'est différentes parties du cerveau qui viennent à différents moments être un peu aux manettes. Et avant, si tu veux, la sensation physique, elle était déjà passée, mais j'étais rentré dans un cycle mental. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'identification mentale. C'est que c'est comme la tristesse. Moi, j'avais tendance à ressentir beaucoup de tristesse auparavant. Qu'est-ce qui se passe? La tristesse, au début, c'est une sensation physique dans le corps. Moi, c'est toujours au niveau du plexus. Et ce qui m'arrivait, c'est que je pouvais sentir cette sensation. Je la voyais venir, je savais que c'était de la tristesse, je ressentais de la tristesse. Et puis, je partais dans mon histoire sur moi et ma pauvre vie. Aujourd'hui, j'ai les mêmes sensations physiques. Sauf que je sais qu'elles vont partir. Et je sais qu'il y a mon mental qui veut prendre le relais. Mais à partir du moment où tu coupes et où tu te concentres juste sur la sensation physique, où tu apprends à vivre avec, mais aussi à la laisser partir, tu coupes court à tout le relais mental. Donc c'est en ça déjà qu'il y a une partie de la connexion au corps qui est si importante. Concrètement, la technique, c'est un scan corporel.
Ouais, mais justement, c'est un exercice qui est dans tes méditations. Moi, le problème, c'est que je ne les ressens pas.
Ça, oui, ça demande.
Et donc, je voudrais bien les couper, mais je ne les ressens pas, tu vois.
Ouais.
Du coup, j'imagine peut-être que c'est aussi une question de pratique, mais tu vois, je fais l'effort quand tu dis ressentir à chaque niveau, tu vois, du corps, ou même quand tu poses la question, prends le temps d'observer ton humeur du moment. Bah, moi, souvent, c'est très vide.
Ouais. Ça met du temps. Moi, au début aussi, quand je pratiquais le scan corporel, je ne ressentais rien. Je ne ressentais pas les sensations dans mon corps. Tu dois entraîner l'attention. Ça fait, de ce que je comprends, tu as une pratique méditative quotidienne aujourd'hui, mais c'est encore un truc qui est jeune.
Ouais.
Et tu sais, c'est comme si tu te mets à surfer. Au bout de 3 mois de surf, Tu vas pas faire des trucs de fou sur les vagues et tourner et faire des tunnels, hein, comme on dit, des tubes.
Voilà, je suis pas du tout l'expert du surf, mais je sais pas ce que tu veux dire.
Ça demande de la pratique. Le problème avec la pratique de la méditation, c'est que t'arrives pas à voir, on en parlait avant, mais t'arrives pas à voir exactement quels vont être les bienfaits, mais tu dois aiguiser ta faculté d'attention. Et ça demande de la pratique. Les retraites Vipassana, pendant ces 10 jours ou pendant 10 heures par jour, tu scannes ton corps pour des sensations physiques. Et c'est ça qui vient aiguiser le truc. C'est comme. Je veux dire, tout est question d'entraînement. Si tu montres à un martien différents comptes Insta et tu leur demandes de te dire quel est le compte cool, quel est le compte pas cool, qu'est-ce que t'aimes et tout, ils vont pas savoir. Toi, tu regardes un compte et en 3 secondes, tu sais est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse pas, qu'est-ce qu'il y a comme expertise et tout, parce que t'es experte. Donc la question, c'est dans quelle mesure est-ce que tu peux devenir expert de ce qui se passe à l'intérieur de toi? Dans quelle mesure est-ce que tu peux devenir expert des sensations dans ton corps, expert des cycles de pensée que tu as? Et c'est ça le travail de connaissance de soi.
Et comment t'as fait, toi, peut-être au début, quand t'as commencé la méditation, pour pas te décourager de pas avoir de résultats immédiats?
J'ai eu des résultats. C'était pas ces résultats-là. J'ai pas eu de. C'était pas sur le scan corporel, mais parce que c'est un des trucs qui est un petit peu plus difficile. Mais j'ai eu des résultats assez rapidement. D'ailleurs, toute personne qui pratique, au bout de quelques séances, commence à ressentir des résultats. C'est pas tous les résultats tout de suite, mais j'imagine que tu as déjà commencé à en ressentir des.
Ouais, bah je me sens moins stressée.
C'est déjà énorme.
Ouais.
C'est déjà énorme.
Ouais.
Et c'est un premier pas. Et ce qui est fantastique, et tu vas voir, c'est que c'est une chasse au trésor. Tu vas commencer à découvrir de plus en plus de choses. Mais il y a des bienfaits qui viennent très vite. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre avec le mental quels vont vraiment être les bienfaits. Mais si je te parle aujourd'hui, moi, des bienfaits pour moi, c'est incroyable. C'est la confiance en moi, la créativité, la connexion à la nature. Et peut-être le plus beau des bienfaits, c'est l'ouverture du cœur. La capacité de compassion qui se développe, je le sens, et il y a des études qui montrent ça, que la pratique de la méditation vient changer véritablement le cerveau et diminue la partie du cerveau qui est capable de peur, de stress, et augmente celle qui est capable d'empathie, celle qui est capable de compassion. Je suis encore bien loin d'être un Bouddha ou un être éveillé, mais je vois que j'arrive mieux à avoir de l'empathie. Que j'arrive mieux, même quand on est désagréable avec moi, à pas le prendre personnellement. Des changements, il y en a tellement, tellement.
Il y a une question aussi que j'avais envie de te poser, comme aujourd'hui, bon, t'es étudiant du bonheur, mais t'es aussi entrepreneur, de par l'application Seven Mind, de par même les livres que tu écris, les conférences que tu peux donner. Comment est-ce qu'on peut être entrepreneur tout en étant aussi serein et apaisé que tu l'es? Et je pense que chaque personne qui écoute le ressent, parce qu'il y a un peu ce cliché qui peut se vérifier honnêtement de l'entrepreneur qui vit à 100 à l'heure, qui est dans un rythme effréné, qui est toujours voilà, dans cette recherche du plus, parce que quand tu es entrepreneur, il y a toujours un truc à faire. Comment tu arrives à être entrepreneur sans te dire, bah, j'ai toujours un truc à faire et il faut que je remplisse ma journée le plus possible?
Il y a eu un gros changement quand j'ai monté ma start-up en Californie. Il y avait un but et il fallait absolument arriver à ce but-là. Et si ce but-là, on n'y arrivait pas, c'était terrible. J'ai la chance aujourd'hui, mais tu as cette même chance. C'est pas la vraie pour tous les entrepreneurs, mais c'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs que aujourd'hui, ce que je fais, c'est un peu tentaculaire. Il y a une appli, comme tu dis, il y a des conférences, il y a des bouquins, il y a même d'autres nouveaux projets là, dans l'audiovisuel, dans le sport, avec les écoles, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses et aujourd'hui, je m'attache plus à un résultat particulier. Ça veut dire, je sais qu'il y a cette matière. Je sais que cette matière, elle fait du bien aux gens, et je fais confiance à la vie pour qu'elle me dise qu'est-ce qui doit fonctionner, qu'est-ce qui ne doit pas fonctionner. Si un projet fonctionne, tant mieux. Si un projet ne fonctionne pas, tant pis. Mais je sais que cette matière, elle existe. C'est vrai pour toi. Ce que tu fais, je vois, tu as une multitude non seulement d'activités, mais d'activités potentielles. Dans ton cas, ça serait juste un changement d'état d'esprit, de dire, je sais que j'ai quelque chose à partager qui est fort. Je sais que ce que je fais, ça fait beaucoup de bien aux gens, mais je ne vais pas m'identifier à telle ou telle projection mentale que j'ai fait sur tel ou tel projet. Je vais faire confiance à la vie que bah, si cette marque-là, ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marque pas, tant pis. Si ce projet-là, ça fonctionne, tant mieux. C'est l'idée d'arrêter de me focaliser sur le résultat et de me concentrer sur le chemin. Tu sais, c'est la fameuse pensée de Confucius, le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Donc, de voir dans quoi est-ce que je trouve de la joie et de le faire. C'est ce que je me disais en écrivant mon deuxième bouquin. Je me disais, mais je me demande si les gens vont l'apprécier, si ça va leur parler et tout. Et je me coachais de me dire, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est est-ce que tu kiffes ici et maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités multiples, qui ont des opportunités multiples, et qui peuvent avoir cet état d'esprit-là, de pas il faut absolument que, mais de dire il y a quelque chose qui va fonctionner. Et donc j'avance sur les... Et puis je suis aussi, moi, alors là on rentre un peu dans quelque chose d'un mystique, parce que j'ai des croyances mystiques dont je partage pas très souvent, mais moi je pense que la vie elle a un plan. Je pense qu'il y a des choses qui doivent voir le jour et d'autres non. Je pense que le problème, c'est quand notre ego dit « Non, il faut que ça, absolument, ça voie le jour. C'est juste un changement d'état d'esprit. Par exemple, si je prends mon deuxième bouquin, là, qui je bosse dessus depuis 10 ans, c'est ma méthode, c'est, je me suis fait un truc et tout. Le truc, il est sorti début mars.
Meilleur timing.
toute la promo a été annulée. Toutes mes dédicaces... Tous les trucs, genre ça fait des années que je bosse sur ce bouquin, c'était et tu sais quoi, franchement, je peux pas trop m'envoyer des fleurs, mais je me suis dit bon bah ok, c'est pas grave, déjà il va aller dans le nombre de mains dans lequel il a besoin d'aller, et il y a d'autres choses, il y a d'autres projets, il y a d'autres trucs, c'est pas en fait c'est de comprendre que si je me mets la rate au courbouillon parce que ce truc là en particulier a pas travaillé, c'est une décision. C'est ce que j'ai lu dans le premier bouquin spirituel que j'ai lu, qui était des contes zen de Jodorowsky, et qui m'avait frappé, j'avais 20 ans, et qui disait « on se crée notre propre enfer ». Et c'était une révélation pour moi, ça, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de souffrance autre que qui découle d'autre chose que de ce qu'on se raconte. Toute souffrance découle d'une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. À partir du moment où je comprends que je suis libre de raconter l'histoire que je veux et que, étant libre de raconter l'histoire que je veux, je peux commencer à raconter des histoires qui me font du bien, c'est la libération. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, ça demande de la pratique. Tu peux pas juste le décider. Moi, quand j'ai lu Eckhart Tolle, je me suis dit, ça y est, je suis éveillé, je suis un Bouddha, j'ai tout compris et tout. Et j'ai vu que c'était pas vrai, qu'il y a un travail, que tu dois travailler ton attention. La chose la plus importante qu'on ait pour vivre, c'est notre faculté d'attention. On vit tous notre perception de la vie à chacun, c'est une réalité virtuelle subjective. La façon dont toi tu perçois la vie est très différente de la façon dont moi je perçois la vie, etc. Et tout dépend en fait de comment notre attention est captée. Et c'est quand tu parles de conditionnement, c'est ça. Un conditionnement, c'est quoi? C'est ton attention qui est captée par un groupe de pensées et qui donne son accord à ce groupe de pensées. Et ce déconditionnement, c'est prendre sa faculté d'attention et sortir de ce groupe de concepts et dire « Attends, ce groupe de concepts ne me sert pas. Mais Eureka, je peux faire ça avec tout.
» Ça m'intéresse du coup de savoir quelle est ta définition de la question signature que je pose à la fin de chaque épisode de podcast à mes invités. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie? J'ai envie de rester sur la faculté d'attention. Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est muscler son attention. C'est apprendre à porter son attention sur des choses qui font du bien à nous-mêmes et du bien aux autres. Et au final, c'est développer sa capacité d'amour. Apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer les autres. C'est un travail, Eric Fromm, il parle de l'art d'aimer. C'est un travail de toute une vie. Et pour moi, il s'agit de ça.
Trop cool. Bah, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu sur InPower. C'était vraiment un épisode super. J'ai envie de faire une partie 2, donc peut-être qu'on fera une partie 2 parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder encore. Bon, maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les rediriger ?
On peut les rediriger vers mes deux livres qui s'appellent Journal intime d'un touriste du bonheur et Les antisèches du bonheur. On peut les rediriger vers l'appli de méditation Seven Mind, qui est la manière de mettre tout ça en pratique. J'ai essayé de synthétiser la méthode, et c'est vraiment cette mise en pratique qui est essentielle une fois que t'as compris la théorie. Et puis voilà, je suis sur les réseaux, j'ai une page Facebook sur laquelle je vais de temps en temps, une page Instagram. Et...
Super, voilà. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et à très vite, j'espère.
Merci à toi.
J'espère que cette conversation avec Jonathan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @lesantisèchesdubonheur et @mybetterself, et à envoyer un petit message à Jonathan sur Instagram. Je suis certaine que ça lui fera très plaisir. J'ai également listé les livres qu'on a cités dans notre conversation dans les notes du podcast, et je vous conseille vraiment d'aller découvrir Seven Mind, l'application de méditation de Jonathan, qui est vraiment géniale pour se mettre à la méditation. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette conversation avec Jonathan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.